France Culture.
Didier Fassin, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve pour le deuxième épisode de Ces Avoies Nues, deuxième épisode autour d'un deuxième moment de votre vie qu'on peut appeler la bascule anthropologique, puisque vous nous expliquiez dans le premier épisode hier comment vous étiez devenu médecin, comment de la médecine vous en étiez venu à, en tous les cas, un aspect de la santé publique, mais comment de la santé publique aux sciences sociales vous êtes passé, nous ne le savons pas encore, et voilà qui nous intéresse aujourd'hui. Comment vous êtes-vous retrouvé là? Est-ce que c'est parce que Eric, votre frère, était déjà devenu sociologue, ou c'était avant cela?
Alors d'abord, effectivement, il y a eu ce passage de la médecine à la santé publique parce que la médecine me semblait assez limitée dans ses perspectives, puisque notamment dans l'expérience de Calcutta, soigner des gens pour les remettre dans la rue, évidemment avec quelque chose de très frustrant, et la santé publique semblait offrir une vision plus en prise sur des politiques de santé, des politiques sociales, et c'est ce qui m'a amené en Tunisie à développer cet aspect-là. Mais à nouveau, j'ai ressenti une certaine frustration, ou en tout cas, j'ai perçu les limites de cette approche, et j'ai commencé à m'intéresser aux sciences sociales. Alors effectivement, dans un dialogue avec Eric, mon frère, qui lui faisait des études à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, mais également à travers des lectures. Mon premier livre, comme beaucoup de futurs anthropologues, je pense, ou de gens qui auraient aimé le devenir, c'est « Triste tropique » de Claude Lévi-Strauss. Bien entendu, ce que j'ai fait après est très différent de ce que lui faisait, mais néanmoins, ça a été une source d'inspiration, d'imaginaire, de rêverie. Et ces deux éléments, disons, m'ont fait me rapprocher de l'anthropologie.
Et puis, c'était un professeur aussi qui vous a
mis à l'étrier. Je suis allé rencontrer Georges Ballandier à la Sorbonne.
Lui-même anthropologue.
Alors, un anthropologue particulier, puisque, et ça m'intéressait vraiment beaucoup et ça correspondait vraiment à ma manière de voir les choses, c'est que, à la différence, disons, d'une tradition anthropologique ancienne dans de nombreux pays, qui consistait à aller dans des sociétés qu'on appelait autrefois primitives, qu'on a appelées ensuite traditionnelles, lui était allé travailler en ville. Il était travaillé à Brazzaville, il travaillait sur les ouvriers, sur le monde industriel, etc. Donc quelque chose qui était en rupture avec une certaine approche qui parfois était culturaliste, parfois ne l'était pas, des sociétés très différentes des nôtres, voire exotiques, voire exotisées en quelque sorte. Et donc lui-même d'ailleurs, amenant en quelque sorte la question historique et politique, c'est-à-dire la question coloniale dans ses travaux, eh bien, ça l'a amené même à écrire des ouvrages qui avaient pour titre « Sociologie de l'Afrique noire ». Autrement dit, c'était un anthropologue qui se présentait comme sociologue. Et il le faisait justement dans une sorte de rupture avec ce qui a été historiquement, et qui bien sûr depuis longtemps n'est plus à l'ordre du jour, mais qui était l'anthropologie pour des sociétés lointaines et la sociologie pour nos sociétés, les sociétés industrialisées. Et au fond, en parlant lui de sociologie pour le travail qu'il faisait en Afrique subsaharienne, eh bien, renversait un peu les choses, ou en tout cas les déplaçait. Et moi, c'était une approche qui m'intéressait beaucoup, et donc, lorsque je l'ai rencontré, il m'a proposé de faire ce qui s'appelait à l'époque un DEA, un diplôme d'études approfondies, et qui s'appelle aujourd'hui un master. Et nous avons, sous sa direction, j'ai réalisé un premier mémoire, un premier travail. À l'époque, j'étais interne en psychiatrie.
Oui, parce que on ne comprenait pas, parce qu'on ne l'avait pas encore dit, mais vous continuiez votre travail de médecin, enfin vos études.
Absolument.
Dans le cadre de médecine.
Absolument, oui, je continuais, donc je n'avais même pas la possibilité, le temps de suivre des cours parce que mon activité médicale était trop prenante. Et donc j'étais en psychiatrie et j'ai eu à prendre en charge un homme kabyle algérien qui présentait une psychose en même temps avec des histoires de possession, de sorcellerie, etc. Et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant, je découvrais à ce moment-là toutes ces disciplines, d'aborder la même histoire d'un point de vue clinique, celui de la psychiatrie, d'un point de vue ethnologique, et d'un point de vue ethno-psychiatrique, c'est-à-dire essayant d'établir un lien entre les deux. Une ethno-psychiatrie qui était beaucoup plus celle de Georges Devreux que celle de certains de ses héritiers, comme Toby Nathan, dont je n'ai pas été spécialement proche. Et donc, ça a été un premier travail qui m'a en quelque sorte mis le pied à l'étrier. Puis j'ai voulu, à ce moment-là, partir pour réaliser une recherche plus approfondie, cette fois pour un doctorat. Et je suis parti au Sénégal, dans le cadre d'un programme de ce qui était à l'époque l'Orstom et ce qui est aujourd'hui l'Institut de Recherche pour le Développement, dans la banlieue de Dakar. Et j'ai travaillé sur la question de la maladie, de la santé, puisque évidemment, comme médecin, c'était la direction qu'on me donnait, vers laquelle on me poussait un peu. Et c'est de cette façon que j'ai fait j'ai eu une double entrée sur ce terrain qui, pour une part, était une entrée du côté des médecines. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait, c'était comment le pouvoir médical des thérapeutes, des guérisseurs, était en prise avec un pouvoir religieux, un pouvoir magique, un pouvoir politique. Autrement dit, que la question du pouvoir était bien plus vaste que simplement soigner des gens. Et deuxièmement, le point de vue des malades, en quelque sorte, en miroir du premier, qui m'amenait à mieux appréhender, mieux comprendre les itinéraires de ces patients qui, malades, pouvaient aller un jour chez le contre-sorcier, le lendemain au dispensaire et le surlendemain voir un marabout. Donc, et c'était une époque où l'anthropologie médicale se développait beaucoup dans le monde entier, sous l'influence notamment des États-Unis. Et en France, elle avait deux versants, en quelque sorte, deux approches qui s'opposaient relativement. La première, qui était plutôt celle de médecins devenus anthropologues, qui pratiquaient une ethnomédecine consistant à faire la collecte et l'analyse ensuite des recettes thérapeutiques, des praticiens qui existaient dans différentes sociétés, des remèdes qui étaient utilisés, etc. Et d'autre part, en quelque sorte en contrepoint de cela, des anthropologues qui, eux, venaient de l'anthropologie et n'étaient pas des médecins, mais qui ont choisi de s'intéresser à un moment donné à ce que Marc Auger appelait un événement, la maladie étant un événement parmi d'autres. Alors c'est une tradition qui consiste à penser que la maladie n'est qu'une des facettes du malheur et que donc il peut pas y avoir une médecine qui soit déjà prédéterminée. Il y a des spécialistes qu'on peut parfois appeler des thérapeutes, mais auxquels on peut donner d'autres noms et qui peuvent intervenir aussi bien pour une mauvaise récolte, pour une blessure, pour une épidémie, pour un danger qui menace le village. Et donc j'étais un peu plus sensible à cette deuxième approche moi-même. Mais en même temps, je me suis rendu compte sur le terrain que la plupart des malades que je croisais, avec qui je parlais, allaient au dispensaire ou à l'hôpital, et pas simplement chez les guérisseurs, que les chefs de quartier eux-mêmes étaient impliqués dans des programmes de distribution de Nivaquine, c'est-à-dire un traitement à l'époque du paludisme. Et donc j'ai proposé de faire une anthropologie politique de la santé, justement pour intégrer ces éléments, à la fois la question du pouvoir, mais aussi la question des traitements ordinaires, qui étaient bien plus fréquents que les recours, disons, à la magie ou à la religion.
Vous y passez 2 ans, hein, au Sénégal, entre Absolument. 1984 et 86. Et là, on entend bien, Didier Fassin, que vous êtes encore un peu à cheval entre les deux. D'ailleurs, vous n'avez pas encore terminé votre internat. Vous allez devenir chef de clinique en maladie infectieuse à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Peut-être à ce moment-là, les deux activités deviennent-elles un peu plus compliquées. Et je crois que c'est un voyage, un séjour encore de 2 ans, en Équateur, qui achève de vous orienter, disons, vers les sciences sociales. Après, la pratique médicale, elle restera... Bon, il y a quand même l'unité médico-sociale de Villermé que vous avez créée et dirigée à l'hôpital Avicenne de Bobigny entre 1996 et 2003. Mais disons que la pratique médicale, vous la laissez beaucoup plus de côté après cette expérience. Est-ce que ce virage, qui peut-être a été acté par le fait que vous avez été nommé maître de conférence en sociologie, puis professeur à l'Université Paris 13. Est-ce que ce virage, vraiment, de passer de la médecine pure, parce que vous étiez vraiment en médecine, à l'anthropologie a été bien acceptée de part et d'autre, aussi bien par vos anciens collègues médecins que par vos nouveaux collègues anthropologiques, parce que c'est pas quelque chose qui est très très bien vu en France. On a du mal avec les multiples étiquettes. On se dit mais il est médecin ou il est anthropologue. Alors, comment c'était vu au sein même de vos deux disciplines?
Alors effectivement. Entre le Sénégal et l'Équateur, il y a quand même eu une période donc où j'ai repris la médecine, d'abord pour finir mon internat, puis ensuite comme chef de clinique. Et c'était une époque qui était extrêmement prenante, puisque ce sont les années, le milieu des années 80, donc les débuts de l'épidémie de SIDA. Et j'étais dans un des deux plus grands services de maladies infectieuses de Paris. Et donc, pratiquement tous nos patients étaient des personnes qui étaient avec des formes de sida très avancées, soit ayant été contaminées par des pratiques homosexuelles, soit de plus en plus des hommes et des femmes venant d'Afrique centrale en particulier.
Vous y avez même accompagné, pardon de vous interrompre, mais je crois que vous y avez même accompagné les derniers moments de Michel Foucault.
Par hasard, oui, puisque effectivement j'étais de garde à l'hôpital et je l'ai reçu lors de ce qui a été finalement sa dernière hospitalisation à la Salpêtrière. Donc cette période a été évidemment très intense, à la fois émotionnellement bien sûr, mais aussi tout simplement en termes de charge de travail. Et ne me laissait absolument pas le temps de faire autre chose que de la médecine. Et donc, il a fallu, à un moment donné, choisir. Donc, le départ en Équateur était une manière, comme celui au Sénégal, d'établir une rupture, de dire, ben voilà, pendant 2 ans, je me consacrais complètement aux sciences sociales. Le choix de ce que je ferais après n'était pas vraiment déterminé. Mais en Équateur, donc, j'ai travaillé sur les questions de santé reproductive, et notamment sur ce qui était un grand problème à l'époque, et qui d'ailleurs l'est toujours dans une large mesure, celui de la mortalité maternelle, c'est-à-dire des femmes qui meurent pendant leur grossesse ou en couche ou immédiatement après. Et il se trouve que l'Équateur était à l'époque considéré comme le pays d'Amérique latine qui avait les taux les plus élevés de mortalité maternelle, principalement dans les milieux populaires, mais surtout dans les communautés indiennes des Andes et d'Amazonie. Et donc c'est un travail que j'ai fait avec Anne-Claire de Fossé, qui est sociologue. Et donc nous avons travaillé pendant 2 ans là encore dans à la fois des quartiers populaires et des communautés indiennes, à essayer de comprendre, je dirais, au-delà du problème médical, dont on voit bien qu'il était au fond un point de départ, la santé des femmes et notamment les risques liés à la maternité, mais qui nous amenait à travailler sur au fond les conditions de vie des femmes et les relations de genre qui existaient dans ces sociétés.
Bon, à nouveau, vous ne m'avez pas répondu, mais c'est pour la bonne cause, puisque vous avez développé ce que vous avez fait en Équateur. Mais je vous demandais comment avait été accueilli ensuite en France ce virage.
Il n'y a pas eu de réaction ni d'un côté ni de l'autre qui ait été déplaisante ou d'incompréhension. Je pense que j'ai été relativement bien accueilli par les anthropologues que je rejoignais en quelque sorte. Et du côté de la médecine, on m'a laissé partir
plus tranquillement. Plus facile de laisser partir que d'accueillir parfois.
Et
oui.
Cela étant, lorsque j'ai été à Bobigny, j'ai été accueilli aussi dans le service de médecine interne qui m'a proposé de faire quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai créé l'unité Villermé dont vous parliez tout à l'heure.
Pour les malades sans couverture médicale.
Hein. Voilà, c'est ça. C'était une unité médicale, sociale et juridique, qui permettait une prise en charge de personnes qui n'avaient pas de couverture médicale et donc qui étaient pour plus de 9 sur 10 des personnes étrangères en situation irrégulière. Donc j'ai été à ce moment-là très impliqué dans cette activité. Mais je dirais que le seul qui était déçu de mon départ vers les sciences sociales, c'est Georges Balandier, qui aurait préféré que son élève devienne un grand professeur de médecine et non pas s'engage comme maître de conférence dans une petite université de la région parisienne.
Bon, Didier Fassin, on a parlé du Sénégal, on a parlé de l'Équateur. Il est encore un pays qui a énormément compté dans votre parcours, puisque c'est une très grande enquête que vous avez menée pendant 5 ans, au cours de laquelle vous avez montré comment la santé peut réellement devenir un enjeu politique. Et ce pays, c'est l'Afrique du Sud. Et vous parliez du sida au début des années 80. Alors là, c'est plus tard, mais c'est dans les années 2000, entre 2000 et 2005. Mais à ce moment-là, en Afrique du Sud, le pays concentrait le plus grand nombre de cas au monde. Un cinquième de la population noire était séropositive. Et en plus de cela, vous allez nous la raconter, mais le pays était au centre d'une controverse mondiale parce que le président et les ministres de la santé de ce président avaient remis en cause l'origine rétrovirale de la maladie et donc l'efficacité des médicaments anti-rétroviraux. Donc vous arrivez dans un contexte politique et historique, bien entendu, très particulier, dans un pays qui sortait d'une histoire qu'on connaît et donc avec cette maladie extrêmement meurtrière. Qu'alliez-vous y faire ?
Alors, j'avais travaillé au Sénégal, j'avais aussi travaillé au Congo, ce qu'on appelle le Congo-Brazzaville parfois, et j'avais fait aussi toute une série de missions de développement et de coopération dans le domaine de la santé, au Tchad, en Guinée, dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Mais à chaque fois, je m'étais retrouvé dans des pays qui avaient une histoire avec la France et qui étaient d'une histoire coloniale. Et donc avec des relations qui étaient un peu particulières, justement de cet héritage colonial, avec lequel je ne me sentais pas forcément parfaitement à l'aise. Et ce qui m'intéressait déjà par rapport à l'Afrique du Sud, c'était que les Français n'y avaient pas une histoire particulière. Et le fait d'avoir travaillé avant en Équateur me faisait penser que être dans un pays qui où on n'était pas vu comme colonisateur pouvait être intéressant. Et à ce moment-là, effectivement, ce pays qui, au début des années 1990, était considéré comme tellement immun, tellement protégé de l'épidémie de sida, que des enquêtes se faisaient pour essayer de comprendre pourquoi il n'y avait pas de sida en Afrique du Sud. 10 ans après, c'est-à-dire en 2000, c'était devenu le pays qui avait la situation la plus dramatique au monde, avec de l'ordre de 4 à 5 millions de cas, et qui représentait effectivement pour la population qu'on dit africaine, en tout cas celle des milieux modestes, puisque c'est là que se faisaient les enquêtes, plus de 20% de la population était infectée.
Vous alliez travailler dans une mission bien particulière, dans un cadre particulier ?
Alors, au départ, comme je voulais aller y travailler, j'ai profité de diverses occasions, par exemple d'être invité à un colloque et donc y aller et prendre des contacts à ce moment, pour essayer de commencer à monter un programme de recherche en collaboration avec des équipes sud-africaines. Et c'est l'Agence nationale de recherche sur le sida à l'époque qui...
Dirigée par Michel Kajakskine.
Exactement, qui a financé cette recherche. Et il s'agissait d'aborder les questions d'inégalité et de mettre en perspective l'épidémie de sida qui était si brutale et si importante, de l'aborder à travers la question de l'histoire du pays. Et puis, la première visite que j'ai faite en Afrique du Sud, dans le cadre de ce projet, j'ai rencontré un haut fonctionnaire d'une agence internationale qui, au bout d'un moment de discussion, sort un document et me dit « lisez ça ». Et c'était une déclaration du président Thabo Mbeki qui invitait un panel composé pour moitié de chercheurs orthodoxes reconnus dans le monde entier sur le sida et pour l'autre moitié des chercheurs présentant des théories hétérodoxes, c'est-à-dire niant le rôle du rétrovirus dans le développement de la maladie, considérant que les traitements antirétroviraux étaient dangereux. Et donc ce document qui a été ensuite quelques jours plus tard diffusé dans la presse, a amené une réaction internationale très virulente de la part à la fois des médecins, des organisations non gouvernementales, des activistes du sida, disant qu'ils ne voulaient pas venir à ce qui était la première conférence internationale sur le sida sur le territoire africain, qui devait se dérouler à Durban. Et donc, les gens menaçaient de ne pas venir. Et donc, après avoir hésité, je me suis dit que finalement, peut-être que le fait d'être étranger me permettait, certes avec moins de connaissances que des gens du pays, mais avec cette relative liberté de quelqu'un qui vient de l'extérieur, d'aborder cette question. Et donc, j'ai travaillé pendant 5 ans sur cette double dimension de ce que j'ai proposé d'appeler l'incorporation de l'histoire. L'incorporation de l'histoire, c'est comment l'histoire s'inscrit dans les corps et elle s'inscrit notamment à travers une histoire de violence, une histoire de déplacement forcé des populations, d'inégalité avec une très grande pauvreté qui amène par exemple des femmes à se prostituer pour simplement survivre. Et donc il y a cette dimension-là qui permettait d'expliquer à la fois la rapidité de l'explosion de l'infection, mais aussi le fait que certaines populations étaient plus affectées que d'autres, notamment donc les populations pauvres noires. Mais incorporation de l'histoire avait une autre composante, une composante disons plus symbolique, plus imaginaire, qui était cette idée que le sida était une malédiction et participait d'un complot organisé par les pays occidentaux ou par le gouvernement sud-africain lui-même pour se débarrasser des malades du sida qui en fait étaient des gens pauvres qui n'avaient pas d'intérêt pour l'économie et l'avenir du pays. Et donc on a vu se développer ces théories dont le président lui-même et ses ministres de la santé successifs ont été les promoteurs, mais qui était très suivi par la population noire, ce déni agressif, en accusant à la fois le pouvoir blanc, en accusant la santé publique, en accusant l'industrie pharmaceutique. Et en fait, quand on reprenait l'histoire du pays, on voyait que depuis 1900 notamment, c'est-à-dire où se met en place la ségrégation spatiale raciale, eh bien les épidémies avaient servi à justifier le traitement infériorisant, stigmatisant et excluant des populations noires. Donc ça avait été la peste en 1900, et puis ensuite ça a été des épidémies de grippe, après ça a été des épidémies de tuberculose, et puis finalement le sida est venu avec en plus sa dimension très particulièrement stigmatisante puisque liée à la sexualité. Et donc tout cela faisait que on pouvait, non pas justifier, parce qu'il n'y a pas à le faire, mais on pouvait comprendre véritablement ce qui se passait. Pourquoi, à un moment donné, ce qu'on trouvait être des croyances irrationnelles, comment ça avait une inscription dans une histoire. Donc cette double dimension d'incorporation de l'histoire, c'est ce que j'ai essayé de développer, de faire entendre ailleurs qu'en Afrique du Sud, et notamment en France. Et vous parliez de Michel Kazatchkine, et nous avons, lorsque je suis rentré d'Afrique du Sud, je lui ai proposé d'écrire ensemble une tribune dans Le Monde pour dire « Nous irons à Durban », et justement pour inciter les gens à comprendre ce qui se passait, et plutôt que de se mettre en rupture avec la politique sud-africaine, essayer de la comprendre et essayer de la transformer aussi.
Cette expérience, Didier Fassin, elle a donné lieu donc à cette grande enquête avec des enquêtes de terrain, avec des colloques, avec le travail socio-historique, les conditions politiques aussi dans lesquelles vous avez travaillé. Et elle a donné lieu à un livre. Quand les corps se souviennent, on a sous les yeux ce livre, Expérience et politique au pluriel du sida en Afrique du Sud, paru aux éditions La Découverte en 2006. C'est presque votre premier succès au sens non académique. La façon d'écrire ce livre était un peu nouvelle. Il me semble que c'est le premier qui a touché un grand public, qui était vraiment écrit comme un récit.
Effectivement, je pense que c'est un moment où j'ai pu trouver une manière d'écrire qui puisse à la fois raconter, décrire et analyser, et si possible donner à comprendre ce que moi-même je pensais avoir compris. Et je crois que ce livre, qui était en rupture avec tout ce qui s'écrivait à l'époque sur le sida en Afrique du Sud et qui relevait de la dénonciation, n'a pas toujours été bien reçu en Afrique du Sud, notamment de la part de gens qui se battaient contre le gouvernement pour obtenir les traitements pour les patients du sida, pour les mères, les femmes enceintes, etc. Et je comprends tout à fait leur réaction, mais pour moi, l'essentiel, c'était de faire ce que, au fond, en sciences sociales, on doit faire, je crois, qui est, pour reprendre une formule de Spinoza, qui est de ne pas moquer, de ne pas dénoncer, mais d'essayer de comprendre. Et ça ne veut pas dire que personnellement, on ne puisse pas avoir des positions comme citoyen ou comme médecin, mais comme anthropologue ou sociologue ou comme historien, eh bien, ce qu'on peut apporter, ce sont des éléments de compréhension. C'est ce que je crois, quand les corps se souviennent, apporte à travers le récit et à travers des histoires qui sont des histoires assez terribles, de pouvoir donner à comprendre ce qu'est l'expérience du sida.
Alors, comme vous en parlez, Didier Fassin, et que de fait, on ne perd pas de vue que ce qui vous meut dans votre travail, dans votre parcours, c'est le souci des vies et l'inégalité des vies, j'aimerais que vous terminiez cet épisode par l'histoire d'une vie. L'histoire d'une vie, c'est celle de Poulang, que vous avez rencontrée en avril 2002.
Oui, c'est une jeune femme que j'ai pu rencontrer avec un de mes collègues, Frédéric Lemarcy, avec lequel je travaillais. Et nous sommes allés la voir dans le quartier où elle habitait, Alexandra, qui est le dernier des grands townships qui restent à Johannesburg, et les autres étant à l'extérieur, notamment Soweto, bien sûr. Et elle nous a raconté son histoire, qui est une histoire vraiment tragique, à la fois celle de sa famille, de la séparation de ses parents, de l'alcoolisme de sa mère, de son frère qui a été tué par la police. Et elle-même vivait avec un homme qui avait d'autres partenaires. Et donc, c'est comme ça qu'elle a été contaminée par le virus du sida. Et elle avait une petite fille qui était là aussi, qui écoutait l'histoire. Et ce qui était véritablement bouleversant, c'est d'abord qu'elle racontait ce qu'elle avait voulu faire, ce qu'elle aurait voulu faire. Elle voulait devenir médecin, disait-elle, pour pouvoir s'occuper des gens. Elle avait même obtenu une bourse et puis les documents, les papiers qu'elle avait ont brûlé dans la maison où elle était et donc elle n'a pas pu aller faire cette formation. Et puis il y avait quelque chose de très très émouvant aussi dans le fait que elle racontait sa vie pour que je la raconte. Et ça m'a d'une part beaucoup ému et puis aussi donné le sens de la nécessité d'écrire ce livre.
Est-ce que, Didier Fassin, le fait que vous ayez été médecin vous a quand même aidé à supporter des histoires comme ça parce que c'est pas simple d'entendre, de voir des corps décharnés à 29 ans dans des situations comme celle-ci. Est-ce que vous vous sentiez armé grâce à la médecine ?
Armé, je ne sais pas, mais en tout cas, il est certain que le fait d'être médecin me permettait d'appréhender ces situations de manière différente. Alors, je pense que ça m'amenait pas à les déshumaniser, à les ramener à des corps souffrants et à des maladies à soigner ou impossibles à soigner. Mais il est certain que bon, j'avais déjà une assez longue expérience d'avoir soigné des gens qui étaient aussi bien à Calcutta qu'à la Salpêtrière, des gens qui étaient amenés à mourir. Donc, je pouvais à la fois être ému mais en même temps pas suffisamment ébranlé, par exemple, pour avoir envie d'arrêter mon travail.
Merci.
Merci. Didier
Fassin. On se retrouve pour l'épisode suivant, l'épisode 3, intitulé « De la compassion à la répression ». À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Didier Fassin, réalisation Asia Weber, prise de son Laurent César, chargé de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.